Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est une nouvelle étape qui commence dans l'enquête du Congrès américain en vue de l'éventuelle destitution de Donald Trump après un vote pour formaliser la procédure. Il y a quelques jours, les auditions deviennent publiques à partir d'aujourd'hui. Publiques et donc largement télévisées. Les Américains vont pouvoir voir les différents témoins s'exprimer et se faire leur propre idée de cette affaire ukrainienne dans laquelle le président aurait fait pression sur le président ukrainien pour qu'il ouvre une enquête sur le fils de Joe Biden, rival politique en course pour l'investiture démocrate l'an prochain. Donald Trump se défend avec beaucoup de virulence. Risque-t-il quelque chose? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Anne Desine, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, professeur à l'Université de Paris-Nanterre et auteur de « Les États-Unis et la démocratie » aux éditions de l'Harmattan. Ça sort aujourd'hui. Et Corentin Célin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire aux grandes écoles, spécialiste des États-Unis, co-auteur de « Les États-Unis et le monde » 1823-1945 aux éditions Atland. À mesure que l'affaire avance et que les témoignages souvent gênants pour la Maison-Blanche s'accumulent, on voit quand même que le président Trump, dans sa communication, ne pense pas beaucoup à autre chose, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il sent qu'il y a un danger? Quel danger, Anne Desine?
C'est la grande différence avec l'impeachment de Clinton. Clinton avait bien séparé, il continuait à s'occuper des affaires de l'État, mais il avait war room, il avait un cabinet de guerre qui gérait la mise en accusation. Là, c'est la panique à la Maison-Blanche et c'est la raison pour laquelle au Congrès, ils ont mis sur pied une sorte de procédure pour résister, quels sont les points qu'ils peuvent défendre dans les médias. Ben, il a peur parce que si l'opinion publique venait à évoluer un petit peu, elle pourrait faire pression sur les sénateurs et là, la destitution qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas envisageable, devient possible.
Corentin Célin, est-ce qu'il sent le vent du boulet, là, Donald Trump?
Alors,
Pas encore, mais
ce n'est pas qu'il sent le vent du boulet, mais comme le précisait Anne Desine, je pense que il paye un peu le prix de ce qu'il est. C'est-à-dire, premièrement, il ne faut pas oublier que c'est un homme seul hein, qui s'est emparé du parti avec une poignée de compagnons il y a 3 ans. À la Maison-Blanche, il fonctionne seul, il fait tout. Hein, il fait sa propre communication, il fixe son agenda par ses tweets. Et ce qui caractérise ses équipes, c'est qu'elles ont toujours été très tournantes, très limitées. Hein, il vire très souvent ses collaborateurs, on le sait.
Beaucoup de turnover,
comme on dit. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, par rapport à un impeachment qu'il faudrait aborder de manière extrêmement rationnelle, extrêmement froide, avec une stratégie prédéterminée, on voit bien qu'il y a une forme de chaos. Par exemple, il y a 72 heures, on a eu cette scène assez étonnante, le dimanche pendant les shows télévisés politiques, le président Trump reprenait un élu républicain parce qu'il estimait qu'il ne l'avait pas bien défendu, ce qui était surréaliste. Normalement, l'élu républicain qui fait la tournée des plateaux le dimanche, il doit voir les éléments de langage de la Maison Blanche. Et on voit effectivement que, on y reviendra, il risque à l'heure actuelle, il risque pas grand chose, mais il n'a pas de stratégie.
À tous les présidents, et vous le disiez, Anne Desine, qui ont eu à faire face à de telles enquêtes, ont mis en place des équipes de défense, hein, war room, comme vous le disiez, ou de contre-attaque. Donald Trump, lui, affirme que non, hein, no team, ils s'en vendent d'ailleurs. Ça veut dire quoi le message? Ça veut dire même pas peur, c'est l'idée?
Alors déjà, il estime qu'il peut détruire l'adversaire, parce qu'il parle en termes d'adversaire, d'ennemi, grâce à ses tweets. Et c'est vrai que les tweets sont de plus en plus agressifs. Et je pense en particulier au tweet très hargneux, où les deux individus en question sont qualifiés de « never Trumper », c'est-à-dire de gens qui ont toujours haï Donald Trump, alors que ce sont des diplomates de carrière qui ont généralement combattu, qui sont des anciens combattants, qui ont été décorés, qui ont 10, 15, 20 ans extrêmement honorables au ministère des Affaires étrangères, en poste, etc. C'est le cas des deux qui témoignent aujourd'hui, l'ambassadeur Taylor et Kent, qui étaient assistants ministre des Affaires étrangères, pour faire simple. Et c'était un vrai délice de les voir, parce qu'ils répondaient de façon posée aux questions. Et alors, je ne sais pas de quel côté ça va pencher, mais à un moment, l'ambassadeur Taylor était tellement sans voix devant les attaques hargneuses de Jim Jordan. Jim Jordan, c'est un membre de la Chambre qui, théoriquement, n'aurait pas dû être dans les auditions, car il ne fait pas partie de la bonne commission. Mais comme c'est le plus agressif, qui défend le mieux Trump, hop, on a fait un petit basculement de chaise là, et il était là. Et à un moment, Taylor, il souriait, l'air de dire, c'est n'importe quoi. Mais il a pris soin de dire, c'est pas à moi de décider la mise en accusation et je ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Et ça paraissait très très crédible. Mais donc c'est l'attaque tout seul et Trump pense qu'il peut s'en sortir tout seul.
Oui, seul contre tous, Donald Trump, Corentin Célin.
Oui, seul en tout cas contre la réalité. Je crois que c'est la grande différence avec la première séquence qui avait dominé les deux premières années de sa présidence, qui était la séquence russe. Puisque pendant l'enquête russe, en fait, qui était une enquête d'un procureur spécial menée dans le plus grand secret, Trump avait la capacité, par ses tweets entre autres, d'écrire son propre récit, sans être contredit par les faits, parce que bon, il y avait quelques fuites dans la presse, mais on ne savait pas ce qu'il y avait dans l'enquête russe du procureur Mueller. Là, la grande difficulté qu'il a, c'est que c'est Trump, et avec ses tweets, et presque que avec ses tweets, il se retrouve face à des faits, et des faits qui sont incontestables. Et en particulier dans cette procédure, moi je voudrais insister sur ce point, et c'est ressorti aujourd'hui avec le témoignage de Taylor. Trump aussi a la difficulté qu'il s'est mis lui-même dans l'embarras en publiant, croyant se dédouaner, le compte-rendu de sa conversation avec Zelensky, le président ukrainien, le 25 juillet. Et la grande difficulté qu'il a, c'est que, bien dans ce texte qu'il a publié lui-même, il dit bien « faites-moi une faveur et enquêtez sur les Biden ». Et à partir de là, c'est très compliqué. Il peut essayer d'inventer tous les récits qu'il veut par tweet. Il se cogne contre cette réalité-là.
Surtout que si on ajoute Mick Mulvaney, son chef de cabinet, en public, en conférence de presse dans la Maison-Blanche, a dit « mais oui, c'était un quid pro quo, un donnant-donnant. On fait ça tout le temps en politique étrangère. Arrêtez de nous embêter avec ça. » Sauf qu'on le fait toujours en politique étrangère, mais pour obtenir par exemple que l'Ukraine mette sur pied un plan anticorruption. On le fait pas pour obtenir des saletés sur un opposant politique du président.
Le fait que les auditions, contrairement aux premières, deviennent publiques, qu'est-ce que ça change, Corentin Célin ?
Alors, ça change, on l'a vu aujourd'hui, c'est une mise en spectacle. C'est une mise en spectacle, on est dans un spectacle politique. Effectivement, avec chacun dans son rôle, les démocrates qui ont été extrêmement respectueux, très courtois, avec ceux qui sont leurs témoins, en quelque sorte. Et face à ça, des élus républicains déchaînés, effectivement extrêmement agressifs. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, ce n'est pas le résultat final, comme on le dit partout, et c'est vrai, il y a très peu de chance, il n'y a aucune chance, même à l'heure actuelle, qu'il y ait au final une destitution au Sénat. Ce qu'on cherche, c'est à convaincre l'opinion publique. Et pour l'opinion publique, c'est important, parce que, même si évidemment, il faut faire attention, tous les Américains ne sont pas en pleine journée à regarder les auditions, mais il y aura des reprises le soir dans les journaux du soir, il y aura des reprises sur Internet, des moments viraux, et donc, en fait, il s'agit de convaincre l'opinion. Et Adam Schiff, le responsable démocrate de l'impeachment à la Chambre, l'a dit aujourd'hui dans son propos liminaire. Nous, on parle à l'opinion. On veut vous montrer comment s'est comporté Trump vis-à-vis de l'Ukraine et est-ce que, et vous, peuple américain, vous jugerez. Mais pas forcément pendant la procédure d'impeachment, vous jugerez aussi dans un an à l'élection. Il s'agit de convaincre l'opinion publique. Et ça, évidemment, ces auditions publiques changent tout.
Les démocrates, Anne Desine, est-ce qu'ils prennent un risque ? Après tout, le témoignage de Robert Mueller dans l'enquête russe avait fait pchit, pour reprendre le mot d'un président qui nous a quitté récemment. Il n'y a pas eu beaucoup d'effet dans l'opinion quand il a accepté à la fin de paraître publiquement.
Alors d'abord, son audition a été très très mauvaise. Je ne sais pas s'il était malade, je ne sais pas, mais vraiment, il a été mauvais et ça a été contre-productif pour les démocrates. Mais là, nous sommes dans un environnement entièrement différent. Ce n'est plus la Russie, c'est l'Ukraine. Et ce n'est plus une enquête et une éventuelle inculpation interdite par le ministère de la Justice qui dit on ne peut pas inculper un président en exercice. Donc même si Mueller avait trouvé beaucoup de choses, même si il avait porté un petit peu plus loin son investigation et ses conclusions dans le fameux rapport Mueller et ses 440 pages, il ne se passait rien. Là, nous sommes dans la mise en accusation. Et ça, c'est le Congrès qui décide, c'est une procédure politique. Et de surcroît, c'est plus facile pour le peuple américain de comprendre. Parce que quand même, même quelqu'un qui ne suit pas trop la politique, le fait qu'on fasse pression sur un allié et que ça mette en danger la sécurité de l'allié et la sécurité des États-Unis, parce que quelque part ça aboutit à renforcer la Russie, il y a des gens qui comprennent. Ma crainte, c'est que, et à cet égard j'ai vérifié tout à l'heure, c'était que les auditions, effectivement, elles sont retransmises à peu près partout et elles seront transmises ce soir heure américaine sur C-SPAN, sur les chaînes publiques PBS. Donc CNN et Fox News transmettre la même chose. Ce que je craignais, c'est Fox News mettre des bandeaux un peu mensongers de façon à contrebalancer ce qui était dit et influencer. Et j'ai été agréablement, entre guillemets, surpris. C'est uniquement descriptif. Quand j'ai regardé, ça disait simplement Taylor et Kent témoignent devant la commission. Alors que CNN reprenait des petits morceaux si on est absolument honnête, plutôt à charge qu'à décharge.
CNN, qui est une des cibles préférées dans le fake news média de Donald Trump. L'affaire, vous l'avez dit, Anne Desine et Corentin Sénat, est très politique. Elle doit peser, et c'est le but des démocrates sur les futures campagnes présidentielles et sénatoriales. Mais juridiquement, que risque Donald Trump? De quoi il peut être accusé dans une procédure comme celle-là? À un moment, il doit y avoir des chefs d'accusation. Qu'est-ce que ça peut être, Corentin Sénat?
Dans ce cas-là, je pense que c'est un abus de pouvoir. Il pourrait être accusé aussi, alors ça, ce qui serait beaucoup plus classique par rapport à la tradition des impeachments récents. Je pense qu'il pourrait être accusé d'obstruction et d'entrave, parce que on voit quand même, par exemple, ses appels systématiques à révéler l'identité du lanceur d'alerte. On a appris hier soir qu'il avait songé à limoger et son secrétaire général Mulvaney, qui a un rôle central dans cette affaire, et également l'inspecteur général du renseignement, qui a transmis l'alerte au Congrès. Donc on voit quand même que, comme dans l'affaire russe, hein, d'ailleurs, il est toujours à la limite de l'obstruction. Donc est-ce qu'il a commis? Bon, ça, après, c'est l'enquête qui le déterminera. Voilà de quoi il pourrait être concrètement accusé, sachant que, comme le rappelait Anne, il a le Congrès, et la Chambre en l'occurrence, a une très grande liberté par rapport aux crimes et délits qui sont définis à la Constitution pour définir des chefs d'accusation précis. Donc, clairement, c'est d'abord un abus de pouvoir. Il peut y avoir de l'obstruction et de l'entrave. Et après, la Chambre peut qualifier un peu comme elle l'entend, on va dire.
Anne Desine, sur cette question, donc, oui. Quel chef d'accusation?
Alors, la Constitution est très brève. Elle dit que le président peut être mis en accusation pour corruption, avec deux mots, hein, bribery, corruption, qui sont à peu près la même chose. Bribery, c'est le pot de vin, corruption, c'est un petit peu plus conceptuel. Et puis ces fameux hauts crimes qui ne sont définis nulle part et que quelqu'un avait défini en riant, mais à moitié, c'est ce que décide une majorité de la Chambre à un moment donné. Donc on nous en sommes là. Ce qui est intéressant, c'est de relire les trois articles de mise en accusation de Nixon, qui avait été voté par la commission judiciaire, et ensuite il a démissionné pour tout un tas de bonnes raisons. Et en fait, on se rend compte qu'on pourrait les reprendre pratiquement telles quelles pour Donald Trump. C'est-à-dire que le premier, c'était obstruction à la justice. Bon, alors, parce que si les démocrates décident de ratisser l'ard, on peut reprendre le limogeage de Comey, on peut reprendre tout. Je ne pense pas que ça serait une bonne stratégie, mais c'est envisageable. Le second, c'est la violation des droits. Et par exemple, l'histoire du lanceur d'alerte, c'est typique. Il y a une loi qui protège le lanceur d'alerte, et Trump dit non, il faut absolument qu'il vienne. Alors que le fait de connaître son identité n'apporte rien, puisque ce qu'il a dit dans son alerte a été largement corroborée par tous ceux qui ont accepté de témoigner. Et troisième, c'est effectivement l'entrave au Congrès. Et à cet égard, les démocrates ont bien compris, ils ne vont pas jouer le petit jeu, ils veulent pas alors telle personne ne veut pas témoigner, alors Bolton, il est un peu ambigu, mais mettons Mulvaney. Donc habituellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de gradation, venez témoigner s'il vous plaît, ensuite citation à comparaître, et si la personne ne vient pas, condamnation pour outrage au Congrès. Et les démocrates ont dit, oh ben non, on fait plus ce petit jeu-là. À chaque fois, vous, président Trump, que vous invoquez le privilège de l'exécutif, que vous interdisez à quelqu'un de venir témoigner, ça va constituer un dossier qui sera un article de mise en accusation, entrave au Congrès, qui, monsieur le Président, nous le rappelons, est une branche co-equal, égale.
Une question qui nous est venue par Twitter de Mathieu François, et c'est une question que j'entends parfois, et c'est pour ça que je vous la pose. Alors on a bien compris qu'il y avait peu de chances pour que ça aboutisse à un impeachment, mais si impeachment il y a, est-ce que Donald Trump peut se représenter aux élections à venir?
C'est-à-dire, bon, il faut rappeler d'abord que l'impeachment, techniquement, c'est la mise en accusation qui sera ou pas votée par la Chambre à majorité démocrate. Ensuite, on transmet au Sénat, qui se transforme en fait en tribunal et qui juge le président sur les chefs d'accusation votés par la Chambre. Ce qu'il faut savoir, donc il faut une majorité des deux tiers, simplement. On n'est jamais allé jusque-là, hein, parce que par rapport à votre question, pour un président. Mais si on se fie aux impeachments qu'il y a déjà eu, par exemple, de juges fédéraux, en fait, ce qui se passe, c'est que le Sénat organise deux votes. Un vote pour la destitution, c'est-à-dire qu'on retire la fonction à la personne, bon. Mais après, on fait un vote à la majorité simple, celui-là, pour savoir si on lui interdit, en fait, d'exercer de nouveau cette fonction. Donc, si jamais, imaginons, Eh bien, il faudrait savoir si le Sénat organise un second vote après avoir destitué Donald Trump pour l'empêcher d'exercer la présidence.
On est dans un cas d'école, une pure hypothèse.
Dans un plein délire. Non, c'est vrai, voilà. c'est absolument pas impossible sur le papier, mais le fait qu'on soit amené à dire des choses comme cela veut dire qu'on est sur une autre planète et que c'est très très grave. Moi, ce que je dis dans mon bouquin, c'est qu'il a détruit les normes constitutionnelles, les normes non écrites, toutes les traditions au Sénat et tout qui permettent de faire fonctionner les institutions. Et ça, il y a quand même un nombre important de personnes qui s'en rendent compte. Et l'affaire ukrainienne, ça montre aussi qu'il exporte la corruption en dehors des États-Unis. C'est-à-dire, non seulement il n'aide pas ces pays à lutter contre la corruption endémique, parce qu'il y a bien une corruption endémique en Ukraine, mais en fait, il leur montre le lobbying, le chantage, le donnant-donnant, etc. Et ça, ça gêne les républicains. Les républicains qui ne sont plus au Congrès et qui acceptent de parler en public sont catastrophés et ils aimeraient que leurs collègues actuels soient un tout petit peu courageux au moment du vote.
L'un des angles de défense des républicains depuis le début, c'est d'orienter l'enquête sur une corruption présumée de la famille Biden. Est-ce que ce storytelling-là, il fonctionne, Corentin Célin ?
Alors, il fonctionne très bien avec l'électorat de Trump, oui. Mais il faut rappeler deux choses. Premièrement, c'est pas du tout ce qui est en jeu dans cette procédure d'impeachment. Si Trump, et c'est tout à fait son droit, avait envie que le département de la justice enquête sur d'éventuels mauvais agissements des Biden, il demandait à son ministre de la justice dans le cadre des lois américaines, et le ministre de la justice Barr aurait pu demander.
Et il le fait en fait. Il y a voilà, un procureur qui enquête.
Voilà, il aurait pu enquêter dans le cadre américain. Il n'avait pas besoin de demander à l'Ukraine, point 1. Et point 2, il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, déjà, Hunter Biden a déjà été soumis à enquête en Ukraine. Un premier procureur trouvait qu'il n'y avait rien. Il s'agissait en fait de relancer une enquête qui avait déjà eu lieu. Tout ce qu'on peut reprocher à Hunter Biden, c'est de l'ordre de la morale. Oui, bien sûr que c'est un fils à papa qui n'a jamais rien fait que dans la foulée de son père, qui a eu une vie extrêmement tumultueuse, qui a longtemps été addict à la cocaïne, qui a une vie privée encore plus tumultueuse.
Mais on parlait du fils, là.
Oui, du fils Hunter Biden. Mais c'est du fils, donc qui est l'exemple même du fils à papa. Mais ça, c'est un jugement moral. Judiciairement, pour l'instant, il n'y a rien. Et s'il y avait quelque chose, Donald Trump avait simplement à actionner le ministre de la Justice états-unis.
Voilà. Alors, et en ce qui concerne le papa lui-même, le vice-président, dans l'espèce de théorie du complot, il est dit que le vice-président Biden a demandé au président ukrainien de limoger le procureur parce que le procureur voulait enquêter sur Burisma. C'est tout le contraire. C'est l'administration américaine, l'administration européenne, le FMI qui ont fait pression pour que sur le président ukrainien, pour limoger le procureur qui ne faisait pas son boulot. Oui. Mais sauf que c'est tellement compliqué et que Trump ment tellement bien que vous demandez à 100 des Trumpiens, ils sont persuadés que... Enfin, ils n'ont jamais entendu parler de ce que je viens de dire. Ils sont persuadés...
Bon, ils savent pas ce que c'est.
Ouais. Non, si, ils savent parce qu'ils savent que Hunter a touché 50 000 dollars par mois, qui est quand même leur salaire annuel. Donc, je comprends que ça les mette en colère. Quelque part, c'est plus que moral. C'est une atteinte à l'éthique, à la déontologie.
Voilà, c'est moral,
c'est pas bien. Et j'espère qu'il y aura une loi à voter. Vous savez, après le Watergate, après tous les scandales, plusieurs lois ont été votées. Et j'espère que, quoi qu'il se passe, quelle que soit l'issue de l'impeachment, un certain nombre de lois sera votée pour un petit peu verrouiller les problèmes qu'on aura décelés au cours de cette procédure.
En quelques instants, Corentin Célin, quelles sont les prochaines étapes ? Les démocrates, ils veulent aller vite ou ils veulent faire durer le plaisir ?
Ah non, ils veulent aller très vite, justement, pour une bonne et simple raison, c'est pour dégager la piste avant l'élection présidentielle et la campagne, pour pas parasiter trop longtemps la campagne. Oui. Donc là, le calendrier est très simple. Fin des témoignages avant Thanksgiving, donc fin novembre, le 30 novembre. Ils aimeraient faire un vote sur la mise en accusation à la Chambre avant Noël. Et ensuite, justement, on refile la patate chaude pour le début de campagne aux Républicains, puisqu'après, ça passe au Sénat.
Oui, mais c'est pas gagné, parce que si le méchant McConnell, lui, décide de faire durer les choses, ça veut dire que pendant février-mars, quand il y aura les primaires et les caucus démocrates, le projecteur médiatique sera sur l'impeachment et non pas sur les primaires.
Et la campagne sera polluée. Merci Anne Desine, merci Corentin Célin d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour. Florence Ponce à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Fabrice Violet, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.